France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, rendez-vous avec Gilles Dreux, qui connut un succès mémorable en 1968 avec sa chanson « Alouette ». Sa vie entière est un roman passant par les cabarets de Montmartre, les 45 tours, les rencontres amicales avec François de Guelt ou Serge Lama. Beaucoup de ses amis sont d'ailleurs conviés dans le disque qu'il vient de sortir avec toute la fraîcheur de ses 86 ans. Gilles Dreux à ce micro dans quelques minutes, le temps de célébrer encore une fois le printemps qui est bien là, même s'il a repris des airs hivernaux.
Assise au pied d'un lilas, comme monte la sève, le corps trouble et l'esprit là, doucement on rêve. En nos cœurs, un cher désir vient s'épanouir, nos rêves et nos souhaits, confions-nous-les.
Je voudrais ma cave pleine, à tout jamais ne m'allira.
Je voudrais sans perdre haleine, m'élever dans l'air serein.
Du grand Rubens, moi je souhaite avoir la palette.
Avoir des amis sous mon toit, c'est mon souhait à moi.
Moi j'attends l'âme ravie, celle qui doit changer ma vie.
Et quoi ?
Et quoi ?
C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire. J'attends, j'attends celle qui voudra m'aimer.
Ah, le printemps dans mon âme est comme une flamme, la parfum céleste l'air est embaumé.
C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire.
Je crains j'attends celle qui voudra l'aimer.
On voudrait en vérité rester insensible, mais amour te résister, ce n'est pas possible. Car tu veux vaincre et tu vas de tes traits divins. Tu sais percer sans remords le cœur des plus forts.
Venez à moi, brille blonde, prête à bouger mes flancs.
Quand Vénus sortit des ondes, hélas que n'étais-je là.
Je vous chéris, mes mains fidèles, mes petits modèles.
À toutes, je donne ma foi, et sans savoir pourquoi.
Moi, j'attends l'âme ravie, celle qui doit changer ma vie.
Il croit.
C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire. J'attends, j'attends celle qui voudra m'aimer.
Ah, le printemps dans mon âme n'est comme une flamme, d'un parfum céleste l'air est embaumé.
C'est de l'amour qu'on respire et mon cœur soupire.
Je prends ton sel comme on a aimé.
Et vos oreilles attentives auront reconnu notamment les voix d'Aimé Donia et d'André Malabrera dans ce quintet du premier acte de l'opérette Chanson d'amour, immense succès d'opérette dès sa création en 1916. Opérette, vous l'avez entendu aussi sans doute sur des musiques de Franz Schubert, adaptées donc à la mode de l'opérette viennoise par le compositeur Henri Berthet. Et cette œuvre très printanière a connu aussi un immense succès à nouveau en France à partir de sa création à Marigny en 1921.
Thank you.
Alors, pour beaucoup d'entre vous, évidemment, c'est un générique télévisé, celui du Ciné-Club, mais les autres savent qu'il s'agit d'une grande valse de monsieur Émile Waldteufel, dont la version originale est d'ailleurs beaucoup plus longue, ça fait 8 ou 9 minutes, comme toutes les grandes valses à la viennoise, même si c'était un compositeur alsacien, mais on entend rarement, finalement, ce générique en entier, la version donc un peu réduite pour grand orgue de foire au son magnifique, vous l'avez entendu, donc de Amour et Printemps d'Émile Waldteufel.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Mais il est temps de retrouver mon invité à la vie étonnante et riche, lui qui faillit devenir professeur de gymnastique et qui coule aujourd'hui des jours heureux en Ardèche. Entre-temps, il a connu d'immenses succès, notamment celui d'Alouette, mais il a enregistré aussi beaucoup de chansons et mené des aventures qu'il va nous raconter maintenant. J'ai le plaisir ce matin d'accueillir Gilles Dreux.
Souvenir en couche-culotte dans le quartier des Chartreux, avant même que la guerre n'éclate en France. On s'essuyait la morve d'un simple geste de la main, avec trois billes on s'amusait, et quand j'y pense, on était bien, on était bien. Allez, buvons à nos jeunesses, aux années déjà passées, mais qui seront toujours les plus belles. Buvons à nos bêtises, buvons aux friandises d'antan. Et les bonbons fauchés au bar tabac du coin, avec nos stratagèmes de bandits à dessous. Toutes les escapades en vélo pour aller plus loin, les bagarres qui éclataient entre nous. On était bien, on était fous. Allez, buvons à nos jeunesses, aux années déjà passées, mais qui seront toujours les plus belles. Buvons à nos bêtises, buvons aux friandises d'antan. Le temps a la nostalgie des souvenirs, mais il ne reste que des petits moments de plaisir. Les éclats de rire, les tristesses remplissent nos mémoires, et qui au bout du compte deviennent simplement notre histoire. Allez, buvons à nos jeunesses, aux années déjà passées, mais qui seront toujours les plus belles. Buvons à nos bêtises, buvons aux friandises, et buvons aux gourmandises, et trinquons surtout à nos bêtises d'antan.
Bonjour Gilles Dreux.
Bonjour Benoît.
Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur cette chanson qui ouvre votre tout récent dernier disque, hein, Le Comptoir des Amis, Allez Buvons. Je précise d'ailleurs, hein, pour ceux qui vous accuseraient de faire la promotion de la boisson, que vous avez également participé quelques années plus tard à une chanson collective contre l'alcool.
Oui, on est polyvalent finalement.
Mais là, c'est l'ambiance évidemment du bistrot ardéchois, parce que c'est votre région, celle où vous vivez aujourd'hui. Et je crois que c'est un jeune groupe justement de musiciens ardéchois, Lilikrai, qui vous a...
Lilikrai, on anglicise, même ardéchois, on anglicise les noms. Et l'histoire est drôle parce que... À 86 ans passés, j'avais décidé finalement de reprendre une retraite partielle, j'allais dire bien méritée, ce qui n'est pas le cas parce que je l'ai pas mérité réellement. Et ce groupe est venu et m'a proposé un certain nombre de chansons. Je dis mais moi je veux plus écrire. Voilà, je n'ai fait que deux musiques sur le disque, j'ai pas écrit une ligne, je n'ai fait que chanter et me faire diriger par ces garçons, un groupe formidable, et puis des musiciens de talent, et un directeur de séance de talent aussi.
Mais c'est, voilà. C'est merveilleux, écoutez, après 62 ans de carrière, là, de sortir ce disque très, très vivant. Alors je vais surtout souligner un disque dans lequel vous avez enregistré beaucoup de duos, avec un certain nombre d'amis, hein. On y retrouve Serge Lama, Gérard Lenormand, Didier Barbelivien, d'autres encore. Et c'est fascinant parce que finalement, vous avez très longtemps quitté en partie le milieu de la chanson, et malgré tout, vous êtes resté ami avec tout le monde. C'est que vous devez avoir un sacré sens de l'amitié.
Ben, j'ai un sens aigu de l'amitié, et je les ai pas tous encore. Il y en a qui me manquent. Ils n'étaient pas disponibles à ce moment-là. Moi, je dépendais un peu des disponibilités de mon groupe également, parce que moi, des disponibilités, j'en avais maintenant. J'ai rappelé, par exemple, Serge Lama, je l'avais pas appelé depuis 20 ans.
Oui, c'est
quelque
ça.
Chose comme ça.
Il faut dire que Serge Lama, vous l'aviez repéré à ses débuts, bien avant qu'il ne soit célèbre.
Hein. J'ai vu sa première audition.
Voilà.
J'étais à l'Écluse lors de sa première audition. J'avais auditionné moi-même et je m'étais fait jeter. Et j'ai entendu Serge sur deux chansons. Une chanson qui s'appelait « À 15 ans » et une autre qui s'appelait « C'était ma femme ». Je me suis dit « Celui-là, il va faire une grande carrière ». Je lui ai dit directement et on est resté amis depuis.
Voilà, donc là vous l'avez rappelé pour le disque ainsi que quelques autres.
Et alors il m'a mis une seule condition. Il m'a dit écoute, je veux écrire une chanson qui parle vraiment de nous et de nos débuts. Et je veux écrire le texte, il faut que ce soit toi qui fasses la musique. Et la chanson Amitié, le texte est de Serge et la musique est de moi-même. Voilà.
Voilà, et je cite donc encore, oui, Gérard Lenormand, Didier Barbelivien, Pierre Billon, le fils de Patachou,
oui,
Fabienne Thibault, Frédéric Zetoun, Stone, sans Chardon, malheureusement.
Ah, sans Chardon, mais je l'ai remplacé.
Voilà, David Alexandre Winter, Alain Turban, etc., qui est un de vos grands amis, et une préface de Marcel Amont, quelle compagnie.
Marcel Amont qui a eu 92 ans hier.
Et oui, le 1er avril, c'est vrai qu'il est du 1er
oui,
avril.
Oui, oui, il est du 1er avril.
Voilà, Gilles Dreux, en tout cas, moi, c'est une joie pour moi de vous rencontrer, alors, à l'occasion de la sortie encore récente de ce disque, mais aussi bah, parce que depuis longtemps, j'avais envie de revenir un peu sur votre carrière de chanteur et votre vie pas du tout ordinaire. Alors, on va, si vous voulez bien, bah, c'est l'habitude, remonter un peu dans le temps avec une des chansons qui correspondent d'ailleurs à peu près au temps de votre naissance.
Élève la bilure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez dix. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez neuf. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon. Élève Poudaran. Vous connaissez bien l'histoire naturelle, eh bien dites-moi ce qu'est un ruminant. Et puis citez-moi, et je vous rappelle que je donne 10 quand je suis content. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. les ruminants sont des coléoptères tels que la langouste et le rat à dégoût. Le cheval de bois, le poule à belle-mère qui bave sur sa proie et puis cavale tout. Très bien répondu, je vous donne 8, pas plus. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Troufigne.
Présent.
Vous connaissez bien la géographie. Eh bien, citez-moi les départements, les fleuves et les villes de la Normandie, ses spécialités et ses représentants. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. C'est en Normandie que la Moselle, capitale Béziers et chef-lieu Toulon. On y fait le caviar et la mortadelle, et c'est là que mourut Philibert Besson. Bravo mon ami, je vous donne 9,5. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon. Élève Cancrela.
Présent.
Vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. En philosophie, savez-vous quelque chose? Répondez-moi oui, répondez-moi non. Monsieur l'inspecteur, ben je ne sais rien par cœur. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne 0. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papy, au lycée papillon.
Et vous n'étiez pas bien vieux, Gilles Dreux, quand Georgius a enregistré le lycée Papillon, c'était en 1936.
Ah oui, j'étais pas bien vieux, et je l'ai entendu parce que mon père était un fou de Georgius.
Ah, il avait bien raison.
Donc malheureusement, on a appris après que, sous l'occupation, il n'avait pas eu une
conduite. Il a beaucoup chanté.
Irréprochable, voilà.
Voilà. Mais en tout cas, quel talent, et votre père donc chantait ça à la fin des repas de famille.
Mon père était une encyclopédie de la chanson populaire, en commençant par Bruant, Jehan Rictus, etc. Et puis, donc, Georgius. Alors, il n'y avait pas que le lycée Papillon, il y avait pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, son petit frère Toto, j'ai une auto.
Eh ben écoutez, alors voilà, ça c'était le côté paternel, puisque votre père, par ailleurs, il faut préciser, hein, c'était un militaire. Donc
c'était un militaire, ouais. Un militaire de carrière, voilà.
Et qui fait que vous avez, selon au gré de ses affectations, vous avez beaucoup voyagé dans toute votre jeunesse avec votre famille.
Ma jeunesse est un patchwork de voyages. Je suis né à Dreux, d'où le pseudonyme, quand il a fallu choisir un nom de scène, où j'ai enlevé le X tout simplement. Alors, Gilles Dreux. J'étais en train de lire le Gilles de Drieux-La Rochelle.
Ah.
À ce moment-là. Voilà. Dreux, sans X, pas un prénom, puisque je m'appelle Jean-Paul de mon véritable prénom. Gilles, d'un seul coup.
Ah, c'est joli.
C'est sorti comme ça. Je suis resté à Dreux, finalement, 4 mois seulement.
Voilà. Et alors, vous avez donc circulé, on va y revenir, avec vos parents, pour rester à la musique. Donc, votre père, vous l'avez dit, adorait la chanson populaire. Votre mère, elle était carrément organiste, avec
un bon métier classique. Elle avait été l'élève du plus célèbre organiste de son temps, qui s'appelait Louis Vierne.
Ah oui, quand même.
Elle a peu à peu abandonné sa carrière, par amour pour son légionnaire, qui n'était pas légionnaire d'ailleurs, qui était simplement militaire colonial. Oui, mais ça s'est pas passé aussi bien qu'elle aurait voulu, parce que je pense que si aucun de mes frères, de mes sœurs, ni moi n'a fait de la musique classique sérieusement, c'est parce qu'elle y a mis de la mauvaise volonté après, en rejetant sur nous un certain regret de sa carrière avortée. Voilà.
Ah oui, d'accord. Alors, en tout cas, Gilles Dreux, donc vous grandissez dans cette famille, et puis vous avez, parmi vos autres souvenirs, on l'évoquait en préparant l'émission, des chansons de la guerre, hein, de Charles Trenet, de Jean Sablon. Et vous êtes parti finalement à la Martinique, toujours en suivant votre père, hein.
Le cheminement, ça a été ce qu'elle m'a dit aujourd'hui, c'est-à-dire c'était le Soudan français à l'époque. Retour à Marseille. Puis la Guinée, Conakry, puis retour à Marseille, puis au moment principal d'une vie d'un jeune garçon, ou d'une jeune fille d'ailleurs, à l'adolescence, la Martinique. La Martinique de 3 ans à Fort-de-France, évidemment sur la totalité de l'île, qui n'est pas très 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 grande, avec tout ce qu'on peut découvrir à 12, 13, 14, 15 ans sous les tropiques, c'est-à-dire en dehors du goût de la papaye, l'amour, voilà.
Et la musique ?
Et la musique. Oui. La musique. Alors je suis resté extrêmement sensible aux vieilles mazurkas martiniquaises, plus qu'antillaises. C'est spécifiquement martiniquais. Beaucoup plus. Ça rend jaloux les Guadeloupéens, d'ailleurs, d'une manière générale. Ah bon. Mais c'est très martiniquais. Les adieu Foulain, adieu Madras, adieu Guindor, adieu Colliéchou. Voilà. Je suis beaucoup moins amoureux du zouk contemporain. D'ailleurs, le créole actuel, je le comprends plus.
En tout cas, finalement, vous êtes revenu en France, à nouveau à Marseille. Vous avez découvert encore d'autres aspects de la musique, notamment Brassens. Ça a été votre première grande passion de futur chanteur.
Hein, oui. Ça a été un choc extraordinaire. Oui. J'allais avoir 18 ans. Quand j'ai entendu Le Parapluie, La Chasse aux Papillons, pour moi, ça a été extraordinaire. C'est un précédent parce que jusque-là, il y avait quand même traîné, hein, apporté quelque chose à la chanson. Mais on en était encore, nos parents en étaient à Tino Rossi, à Luis Mariano et Pierre Mallard. Hein.
Voilà, c'était un autre monde qui s'ouvrait. Mais finalement, en fait, vous n'aviez pas tellement l'idée de devenir chanteur à l'époque. Ce qui vous passionnait vraiment, Gilles Dreux, c'était le sport. Hein.
J'avais pas du tout. Et j'avais des camarades qui avaient des photos. C'était assez peu de chanteurs, mais il y en avait qui avaient des photos de Jean Cocteau, etc., de Jean Marais, de... Moi, c'était Marcel Cerdan.
Voilà. Et le rugby aussi, hein.
J'ai pratiqué avec peu de talent, parce que je courais vite, vraiment très vite, et je prenais beaucoup de coups. Alors, bon, ma carrière de rugby, qui a continué, et là, ça ne s'est pas démenti, mais elle ne s'est pas démentie en troisième mi-temps. Je suis devenu un barde officiel du Stade Marseillais Université Club, et si je ne jouais pas beaucoup, j'étais beaucoup sur le banc de touche, mais en revanche, je ne loupais pas une troisième mi-temps. Ça...
Alors, en tout cas, suivant la glorieuse voie patriotique et militaire paternelle, vous êtes quand même parti en Algérie pour 28 mois. Mais pas de gaieté de cœur, hein.
Ben, pas vraiment de gaieté de cœur. Parce que ça a interrompu mes études de prof de gym, puisque je n'avais pas été un très brillant élève, hein, faut dire la vérité.
Comme au lycée sport, Papillon, un peu, quoi. Ouais.
Exactement, mais avec, oui. Non, j'étais meilleur en géographie que dans le lycée Papillon, parce que j'avais beaucoup voyagé.
Voilà.
Mais d'une manière générale, après mon deuxième bac, il y en avait deux à l'époque, où je suis passé de justesse, je ne vois pas où je pouvais aller. Les prépas de grandes écoles m'étaient véritablement pas ouvertes, et les différentes facs étaient en dehors de mes moyens. Alors que la préparation du... Voilà. C'était faire quelque chose, mais dans le monde du sport.
Voilà. Mais finalement, donc l'Algérie, comme pour beaucoup de garçons de votre génération, plus de 2 ans, hein, quand même. Hein. Ça fait long. Hein.
28 mois. Ça fait 30 en comptant les 2 mois de permission libérable à l'arrivée. Voilà.
Et donc vous rentrez en France, à Marseille, vous avez 24 ans, mais ça va être le moment justement de votre montée à Paris et de votre découverte du monde de la chanson, et notamment avec quelqu'un qui, je crois, vous a beaucoup marqué.
Mais Paris, c'est trop loin de la mer, c'est trop loin. Mais Paris, c'est trop loin. Tu t'en vas quelques jours, tu t'en vas, mon amour. Je voudrais bien partir avec toi, je voudrais bien m'enfuir. Mais Paris, c'est trop loin de la mer, c'est trop loin. Mais Paris, c'est trop loin de la mer. C'est trop loin, appelle-moi tous les soirs, bien sûr, j'irai te voir, j'irai te retrouver, tu sais bien que tu vas me manquer, car Paris, c'est trop loin
jour de soleil et tu seras très belle. Tu connaîtras des gens, des garçons amusants et charmants. Et Paris, c'est bien loin de la mer, c'est bien loin. Et Paris, c'est bien loin de la mer, c'est bien loin. C'est tant pis, ou tant mieux, mais nous partons tous les deux. Mon travail attendra, je m'en fous, moi je pars avec toi, car Paris, c'est trop loin de la mer, c'est trop loin, car Paris, c'est trop loin de la mer, c'est trop loin, car Paris, c'est trop loin de la mer, c'est trop loin, bien trop loin.
Et Paris a beau être loin de la mer, et bien donc mon invité Gilles Dreux a quitté la mer, la belle mer de Marseille pour Paris et pour la chanson, avec donc notamment quelqu'un qui a compté pour vous, qu'on vient d'entendre, merveilleux chanteur un peu trop oublié aujourd'hui, François de Gelt.
Oh combien, oh oui, oui, et c'est formidable de repenser à lui, de lui faire un clin d'œil avec autre chose que le ciel et le soleil et la mer.
Là c'était en 1966 ce titre-là que je pouvais entendre.
Mais François était un type d'un talent fou, d'une générosité extraordinaire. Enfin, on va faire un panégyrique là de François de Gelt, qui a été mon parrain, mon meilleur ami. Le seul, peut-être, en parler d'autres amis avec qui me sont chers, mais avec qui j'ai eu des distanciations de par mes voyages, les différences avec le temps. François, on s'est suivi tout le temps, jusqu'à sa disparition à quelques années.
Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous avez abandonné le sport pour monter à Paris et commencer à faire la tournée des cabarets qu'on connaît bien, comme tous les gens de votre génération, et qui vous a permis d'ailleurs de rencontrer François de Gelt? Pourquoi est-ce que vous avez changé de voie tout d'un coup?
Le sort a une part considérable dans ma vie. J'étais à l'Institut National des Sports pour terminer ma dernière année de professorat, ce qui était censé correspondre à une agrégation d'éducation physique à l'époque. Et juste avant les vacances de Noël, donc où je devais repartir à Marseille, avec quelques copains qui étaient du rugby, on est allé faire la brinque dans Paris, on cherchait des filles, etc. On est monté à Montmartre, on connaissait rien, on connaissait pas Paris, nous. Et on n'avait pas tellement trouvé de filles, mais on avait passablement taquiné la bouteille, et on s'est retrouvé devant un cabaret qui s'appelait, et qui s'appelle encore, le Tire-Bouchon.
Il existe toujours.
Il existe toujours, tout près de la place du Tertre. Et là, bon, ben, on est rentré, bon. Et puis, il y avait des chanteurs qui se succédaient. On les charriait un peu, on n'était pas très sympas. Bon, avec le coup dans le nez qu'on avait, on manquait totalement de charité. Et tout, et le patron était venu. Et
il s'appelait Valbert, hein.
Du duo Valbert et Kerembrun. Ils avaient écrit des chansons pour Bourville, etc. Et voilà. Et Valbert arrive et me dit: toi, la grande gueule, si tu devais aller sur scène, hein, tu ferais moi le malin. Et avec le coup que j'avais dans le nez, je dis mais non, mais j'y vais, et j'y vais. À ce moment-là, bon, je monte sur la petite scène, et c'était l'époque où il y avait encore, dans certains cabarets, un trio, mais là, il y avait encore un pianiste. Et il me dit, alors là, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais chanter, et qu'est-ce que tu vas chanter? Et alors, je connaissais pas beaucoup de chansons, autres que mon répertoire de chansons de corps de garde, c'était chansons de troisième mi-temps, et bon, le répertoire, la petite Huguette, etc., c'était difficile à présenter à ce public BCBG. Et alors, il y a une seule chanson que je connaissais par cœur, qui venait de sortir, c'était « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel. Et alors je dis « Bon, quand on n'a que l'amour ». Valbert me dit, pensant me déstabiliser, « Ah, ben justement, c'est ici que Jacques Brel a commencé, et dans quelle tonalité ?» Je dis « Mais la même que Jacques !» Et là, il me dit « Monsieur Chabot va... » Et il attaque, bon, c'était en si bémol. Et j'ai chanté, là, avec le coup que j'avais dans le nez, et mon public acquis de mes rugbymen, avec leur carrure, le reste du public n'osait rien dire. Ils m'ont fait un triomphe d'empereur romain.
Et ben voilà.
À la fin, mais standing ovation. Et
Et vous avez été engagé finalement.
Et j'ai et à tel point que Valbert m'a dit après, tiens mais tu te débrouilles pas mal, ça. Moi j'avais pas de répertoire du tout. Donc est-ce que tu pourrais repasser le mois prochain et tout. Je me suis repointé le mois prochain avec trois chansons que j'avais écrites mal foutues, dont une qui s'appelait Fille de Garche et Enfant de Puteau, et puis deux chansons, une qui s'appelait Le Pendu, toutes pompées à droite et à gauche, c'est des quasi-plagiats.
Ouais.
Et je suis arrivé, et là, ce soir-là, n'ayant plus mon public de rugbyman, et tout à fait à jeun, pas du tout un coup dans le nez, là, j'ai découvert ce que c'était que le trac pour la première fois de ma vie. Et c'est là où François de Gueldre rentre en scène. Il était là au bar, comme il y venait très souvent, il était copain avec Valbert. Et c'est lui qui m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Mais t'inquiète pas, ça ira très bien ». Et finalement, je m'en suis pas trop mal sorti dès la première représentation, grâce à François. Et on s'est jamais quitté après.
Voilà.
Et on s'est retrouvé à tel point que sur la première année de la tournée « Âge tendre et tête de bois », c'est-à-dire la tournée des anciennes idoles, en 2006, François était là aussi, il était Monsieur Loyal, et moi je faisais partie de la tournée, voilà.
Donc la tournée des cabarets, vous avez eu des copains débutants aussi, hein, je crois, genre Daniel Prévost, Pierre Richard et d'autres.
Pierre Richard avait un duo avec Victor Lanoux. C'était Richard et Lanoux, du duo comique. Dans le genre, il y avait les Frères Ennemis aussi, Daniel Prévost, Serge Lama, très rapidement, voilà, les premiers à l'époque.
Et vous avez finalement enregistré votre premier disque, hein, en 1962, vous avez commencé les 45 tours, donc vous étiez déjà repéré quand même.
J'étais repéré, mais c'est une chose étonnante, je travaillais beaucoup, on faisait 3 ou 4 cabarets tous les soirs,
ouais.
Et on gagnait très bien notre vie. Parce que en plus l'été, on faisait les premières parties des grandes vedettes, parce que les grandes vedettes avaient toutes des premières parties à l'époque. Et voilà, moi j'ai des souvenirs formidables de cette époque-là où je n'ai jamais manqué de rien. J'avais acheté ma première 403 cabriolet, la même que celle de Colombo, mais en meilleur état.
Eh ben, vous savez, justement, comme on a Gilles Dreux à Radio France, une discothèque très bien fournie avec plein d'archives passionnantes, j'ai retrouvé ce 45 tours dans lequel vous interprétez justement une de vos premières chansons, ces fameuses Filles de Garche. Vous avez dit tout à l'heure, il y avait les Filles de Garche et les...
Filles de Garche et Enfants de Puteau. C'était le jeu de mots était délicat.
Assez délicat, mais on la retrouve quand même pour l'ambiance.
Elle était gironde, je ne l'étais pas moins. Elle était très blonde, moi j'étais très brun. Elle était née en Seine-et-Oise, à Garche très exactement. Moi dans la Seine, mais sans oise, plutôt plus précisément. Nous étions nés la même journée du mois de juillet de la même année. Fille de Garche et enfant de Puteau, nous avions tous les deux le même âge. Fille de Garche et enfant de Puteau, nous nous aimions depuis 10 ans bientôt. Son père et sa mère pouvaient pas me blairer. Commerce en prospère, ils me reprochaient d'avoir promis mon beau costume le jour où je les ai rencontrés et de traîner sur le bitume plutôt que d'aller travailler. Ils pouvaient pas comprendre pourquoi leur fille aimait un type comme moi. Fille de Garche et enfant de Puteau, nous avions tous les deux le même âge. Fille de Garche et enfant de Puteau, nous nous aimions depuis 10 ans bientôt. 10 ans, il refusait de m'accorder sa main. Mais un jour, son père vint me voir au matin. Car à force d'attendre, leur pauvre fils desséchait. Ils pouvaient plus trouver un gendre qui voulut les en décharger. Alors avec beaucoup de bonté, à ma pomme, ils avaient songé. Fille de Garche et enfant de Puteau, nous avions tous les deux le même âge. Fille de Garche et enfant de Puteau, nous nous aimions depuis 10 ans bientôt. On prépare la noce, corbeille et bouquet, oui, oui, mais y a un os dans les fleurs d'oranger. Célébrera-t-on le mariage à Garche, 8006 habitants, ou à Puteau, malgré le chômage, où y en a 37 500. Son père veut là, sa mère veut si, moi je m'en fous, elle sera dans mon lit. Fille de Garche et enfant de Puteau, on aura un bien beau mariage. Fille de Garche et enfant de Puteau, la belle noce qu'on aura tout de bientôt.
Yeah. Voilà, Gilles Dreux, première manière, hein, une de vos premières chansons.
Mon Dieu, que cette voix était jeune.
Mais c'est joli, moi j'aime bien, avec l'orchestre de Maurice Blanchot.
Maurice Blanchot, oui, qui était un pianiste assez remarquable.
Ah voilà, en tout cas un 45 tours qui nous plaît bien à tous ici dans le studio, Fille de Garches. Et donc, comme vous nous l'expliquez, là voilà, vous avez été engagé, vous avez commencé à faire la tournée, vous avez fait plein d'amis, vous êtes entré dans le métier, mais vous avez renoncé du jour au lendemain au métier du sport. Vos parents ont dû être un peu surpris, non ?
Mes parents ont beaucoup été surpris dans ma vie. Et ils ne sont plus de ce monde depuis bien longtemps, ils continueraient à être surpris.
Voilà, en tout cas, votre nouvelle vocation, hein, qui a remplacé la précédente. Ces 45 tours, moi, je les trouve très, très réussis, mais enfin, ils n'ont pas eu, on va dire, un énorme succès.
Celui-là, c'est le suivant qui n'a pas eu de succès du tout, les deux suivants. Voilà. Mais celui-là avait attiré Jean-Christophe Averty, et j'ai fait deux télévisions avec cette chanson-là.
Ah oui, quand même, oui, c'est bien. C'est
oui.
Bien.
Non, mais ça, c'était normal que ça intéresse Averty.
Bien sûr, oui. Donc, également, dans cette période, je crois qu'Hugo Frey a joué aussi un rôle dans votre évolution après François de Gelt.
Alors, Hugo Frey m'a vu un jour à l'échelle de Jacob, qui était un cabaret à la mode aussi.
Oui, rue Jacob.
Rue Jacob, oui. Où j'avais un répertoire qui tournait beaucoup autour de ce style-là. C'est-à-dire que je voulais faire rigoler les gens en même temps, etc. Et c'est lui qui m'a dit le premier, il m'a dit, mais t'es complètement con, t'as pas un physique de comique, t'as une... Je me souviens, il me dit, t'as une voix héroïque. Donc, il faut chanter autre chose, voilà. Et c'est grâce à Hugo Frey que j'ai connu le premier producteur sérieux que j'ai eu dans ma vie, c'est Norbert Saada.
Et c'était les disques AZ.
C'était les disques AZ.
Voilà.
Et je dois beaucoup à Lucien Maurice, qui est décédé depuis très longtemps, qui était le monsieur musique d'Europe numéro 1, quand on a sorti Alouette, alors que personne n'en voulait, a dit « mais moi j'en fais le disque de la semaine » et ça a tout changé.
Alors justement, Alouette, évidemment on va l'écouter, on peut pas ne pas l'écouter, j'espère que vous en avez pas marre, Gilles Dreux, hein, mais c'est une belle chanson.
On peut pas cracher dans la soupe avec quand une chanson comme ça a changé votre vie.
Voilà, et alors ce qui est amusant, enfin, d'après ce que j'ai lu, hein, d'abord c'est une chanson à l'origine sud-américaine, je crois du même compositeur, et d'ailleurs on retrouve certaines couleurs que celui de la fameuse Missa Criolla. Hein.
Mais c'est une traduction française approximative, puisque l'original fait Alaouette, Alaouette, José y María.
Voilà.
Et Pierre Delanoë, qui disait pas un mot d'espagnol, a entendu Alaouette, Alaouette. il a allé Alaouette, Alaouette, et il a écrit le texte.
Pour Jean-Claude Pascal.
Alors, au départ, pour Jean-Claude Pascal. Et voilà. Puis Jean-Claude Pascal n'a pas voulu le chanter. Et l'anecdote surtout, c'est que le disque qu'on entend encore aujourd'hui, quand c'est la version originale, parce que...
Celle qu'on va entendre tout de suite, oui.
J'en ai enregistré je ne sais combien de versions après, mais l'original, c'est simplement une maquette.
Ah oui.
Voilà. C'est une maquette sur laquelle ont été replacées des voix, mais simplement, c'est une maquette témoin. La voix n'a pas été retouchée. Et, un petit secret pour vous, musiciens, vous allez voir que le final, je chante un tout petit peu faux sur la tenue de la dernière note.
Voilà, et je précise encore, c'est Jean Morlier, le chef d'orchestre arrangeur, qui a également contribué évidemment à la mise en forme de cette adaptation française.
Hein. Alors c'est drôle parce que Jean Morlier a, au niveau des chœurs, le reste il a arrangé avec un son contemporain, une musique andine,
ouais.
Et il a repompé très exactement les chœurs de la Missa Criolla, tels qu'ils écrits.
Avec des très jolies dissonances d'ailleurs.
Hein. Ah, très jolies. Il s'est fait une réputation de spécialiste des chœurs.
Des chœurs.
Voilà.
C'était la chose qu'il n'avait pas faite dans la chanson, d'accord ?
Ouais, exactement.
Alouette, alouette, je te comprends bien. Moi aussi. si j'ai en tête beaucoup de chagrin. Dans les blés de la plaine, auprès de Madeleine, dans l'eau de cette source d'où buvions tous trois, la vie était si douce, si pleine de joie. Chantons tous les deux, un autre jour peut-être on sera heureux. Alouette, alouette, il faut faire la fête. Viens donc sur mon épaule, viens te réchauffer. Tu verras, je suis drôle, je sais bien danser. Et puis si tu t'embêtes,
tu viendras chez moi.
Il y aura des noisettes. Alouette, alouette, l'amour et l'été, comme les cigarettes s'en vont en fumée. Non, ne t'en fais pas, alouette, alouette, l'été reviendra.
Alouette, alouette, c'était Gilles Dreux, donc dans cet immense succès. Combien d'exemplaires finalement de la, pour la chanson ?
En 45 tours, 1,6 million ou quelque chose comme ça.
Voilà, une chanson qui sort, je ne sais pas si ça a joué, mais au printemps 68. Hein.
Au printemps 68, c'est la dernière chanson qui est sortie avant ce qu'on a appelé les événements de mai 68.
Oui, c'est ça, ouais.
Et c'est très drôle parce que ça m'a porté chance, parce que vous savez, moi j'ai la certitude qu'il ne m'est jamais re-arrivé depuis que le très très grand succès, c'est la rencontre d'une œuvre avec son interprète et son époque. C'est, ouais, il faut ces trois paramètres-là. Et là,
et qu'est-ce qui parlait à l'époque spécialement dans cette chanson alors ?
C'est la musique latino-américaine.
Ouais.
Ma gueule qui était presque une copie conforme de Che Guevara. Voilà.
Je vous pose une petite question. On vous l'a peut-être déjà posé, mais ça m'a beaucoup frappé parce que en 68, il y a un autre jeune chanteur qui fait un peu son apparition,
oui.
Et qui s'appelle Julien Clerc.
Oui, oui.
Et il y a quand même deux voix qui se ressemblent un peu, même si elles ne se connaissaient pas du tout, au moins dans cet enregistrement, du moins.
C'est marrant parce que Julien est arrivé et on a commencé à le découvrir à la fin des événements.
Oui.
J'étais pas numéro un, j'étais numéro deux parce qu'il y avait Aphrodite Child qui était avant moi.
Évidemment.
Davis Roussos avec le canon de Pachelbel.
Mais ce vibrato, vous voyez.
Oui, oui. Julien a pris son envol véritablement à partir du moment où je me suis un peu retiré de la chanson.
C'est vrai, oui, plus dans les années suivantes. Oui.
Mais oui,
en tout cas, c'est vrai que le timbre de voix ici, du moins, vous êtes un peu cousin.
Oui, faut dire qu'elles n'ont pas évolué de la même façon. Moi, j'ai pris énormément de graves. Voilà.
En tout cas, quelle belle chanson et quel plaisir de la réentendre, qui vous donc propulse vraiment à l'avant de la scène, et notamment d'ailleurs à l'avant, effectivement, puisque vous passez à l'Olympia en première partie d'Ivan Rebrov, ce qui n'était pas du tout le même genre, voilà, pour le coup.
Ce qui n'était pas du tout le même genre, et ça a été difficile. Et le public était venu pour Rebrov, qui était le phénomène, et moi, au départ, je rentre en scène pas une beigne et tout. J'ai fait 6 chansons, 7 chansons, et j'ai fait lever la salle quand même à la fin. Voilà, donc j'ai été très 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 content de moi.
Voilà, et puis les choses évoluant, vous êtes ensuite vraie vedette, du moins co-vedette de Marie Laforêt à Bobino un petit peu après.
À Bobino, oui, ça c'est 1 an et demi, 2 ans plus tard.
Voilà.
Voilà, mais si vous voulez, les années fastes de ma carrière, ont été très courtes, mais c'est quand, pendant la période où ça a marché, ça a vraiment marché.
Voilà. Alors on va évoquer encore peut-être tiens quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai un petit peu découvert récemment à travers certaines musiques de films. C'était François de Roubaix, jeune compositeur de votre génération, mais mort très jeune, on le sait, d'un accident de plongée. Mais dont vous êtes rapproché à un moment, vous avez fait quelques chansons, notamment pour le cinéma ensemble, et vous seriez même bien allé plus loin.
C'était un hasard après une sorte de casting de voix. Ou pour un feuilleton qui s'appelait Miroir 2000, on m'a choisi, on m'a demandé de le faire, bon, et ça a accroché parce que d'abord je l'ai fait très bien cette chanson-là, et puis François, on est devenu pratiquement copain, ami au premier regard.
C'était un surdoué, hein, à sa façon. Oh,
ouais. Ah ben c'est l'inventeur du home studio, hein.
Ah ouais,
il a été le premier à faire tout seul, il faisait que les mixages en studio.
Il jouait de plein d'instruments lui-même aussi. Hein.
Ah mais ça allait très, très au-delà de l'instrumentiste, parce qu'il prenait le temps qu'il fallait dans les instruments qu'il ne maîtrisait pas. Mais il m'avait demandé, j'avais fait un voyage en Grèce à ce moment-là, il m'avait demandé, rapporte-moi un bouzouki. voilà, il fallait qu'il touche à tout ce qu'il ne connaissait pas encore.
Voilà. Et alors, vous avez notamment enregistré, d'ailleurs, avec lui, une musique d'un film de José Giovanni, hein,
oui.
Allez simple.
La chanson, d'ailleurs, est plus qu'une chanson de générique de film, puisque la chanson revient sans arrêt. C'est presque un personnage du film, cette chanson.
Parole de José Giovanni.
Parole de José Giovanni et musique de François de Roubaix. Pas facile à chanter, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons.
Le chemin des sans avenir, tous les hasards mènent à bon port. Mon port à moi, c'est la jeune mort. On y jette l'argent par les fenêtres. Que l'on soit beau, que l'on soit moche, on est tout seul dans son cercueil. En oripeaux ou en galoche, dans un linceul, y a pas de poche. Sur le chemin des sans-avenir, l'amour surgit à l'aube. Et jamais plus je ne l'oublierai, cette douceur du temps d'aimer.
Descendez l'escalier, que je vous vois, Juliette. Descendez l'escalier, que je vous vois. Descendez l'escalier, que je vois votre tête. Descendez l'escalier, que je vous vois.
Dans toute la ville, on dit que vous êtes revenu et que vous êtes drôlement belle. Je ne l'ai pas attendu, que vous ne seriez plus pucelle.
Descendez l'escalier, que je vous vois, Juliette. Descendez l'escalier, que je vous vois.
Et voilà, après un aller simple de José Giovanni et François de Roubaix, une autre de vos chansons, Gilles Dreux. Alors, qu'as-tu d'ailleurs, celle-là, je crois, un bon succès en 1972, Descendez l'escalier.
Oui, c'est mon deuxième
plus grand succès,
de succès de vente, etc. Ben, puisqu'il faut parler sordidement, c'est mon deuxième plus grand succès. Oui, on est loin des chiffres de Alouette Alouette, mais des chiffres très importants encore pour l'époque.
Hein. Voilà, avec un grand maître du studio qui était Raymond Donnez. Hein.
Ah oui, avec Raymond Donnez, voilà. Et au niveau à la prise de son, un garçon qui a fait des miracles pour beaucoup d'artistes qui s'appelait Bernard Astardi, qui nous
a
quittés
beaucoup
trop tôt.
On en a parlé le souvent dans cette émission.
Voilà.
Voilà. En tout cas, deux aspects donc de votre brillante carrière de chanteur au début des années 1970. Et puis tiens, faisons une petite parenthèse peut-être avant de revenir à quelques autres chansons, Gilles Dreux, sur vos goûts musicaux en particulier. D'abord, je crois que votre première impression musicale, c'est la danse macabre.
Oui, alors c'est quelque chose de très particulier parce que ma maman mettait sur un gramophone de l'époque, un phonographe qu'on remontait évidemment à la manivelle, elle avait ses 78 tours. La danse macabre était là, entre autres. Et je me souviens que, je ne sais pas pourquoi, elle l'avait mis, je pense que c'est le jour de la déclaration de guerre, ça doit être le 2... Enfin, je veux que ce soit comme ça, parce que le 2 septembre 1939... Voilà, c'est le premier parce que l'ambiance musicale est bon, on pouvait pas en voir de la musique en continu à l'époque parce que le gramophone fallait le remonter, etc. Oui.
Et puis avec 3 minutes par face, voilà.
Il y avait 3 minutes par face, il fallait le retourner. Et c'était plutôt en permanence, c'était Jésus comme un joie demeure.
Hein, voilà. Et vous avez gardé de votre mère ce goût de la musique classique?
Oui, mais avec une force incroyable, toujours un amoureux de la musique baroque, d'une manière générale. Voilà. Oui. Et puis, bon, quand j'ai un coup au moral, je me mets les variations Goldberg, voilà.
Voilà, une bonne référence. Et puis au cinéma aussi, vous aimez Barry Lyndon, aussi pour la musique.
Le film lui-même est une réussite extraordinaire, mais la sarabande de Handel, voilà, j'ai fait bondir des copains en disant, mais ça, avec votre rock'n'roll de merde, ça, au niveau de la puissance qui remue, là, quand ça rentre dedans...
Vous voulez dire que vous n'êtes pas très rock'n'roll?
Modérément. Si je suis rock'n'roll, c'est davantage Beatles que Stone. Oui.
Voilà. Et du côté de la chanson française, alors vous adorez Nino Ferrer?
Ben oui, j'ai une passion pour Nino Ferrer que j'ai connu, mais pas intimement. Ça n'a jamais été un ami. D'abord, il n'était pas, facile de caractère. Je voyais dès le début, à l'époque même des Mirza, le téléphone, je voyais musicalement ce qu'il y avait derrière. Mais alors, quand on est arrivé à la maison, le sud, la maison près de la fontaine, etc. Et puis après, d'ailleurs, il a jamais retrouvé cette même veine.
En tout cas, alors, comme on évoquait ces quelques musiques que vous aimez, là, vous m'avez fait extrêmement plaisir avec quelqu'un qu'on entend beaucoup plus rarement sur cette antenne et même dans cette émission. C'est Richard ou Riccardo Cocciante, chanteur de charme italien, chanteur à succès des grandes comédies musicales contemporaines. Mais voilà, ça pourrait paraître assez loin, finalement, de votre monde. Et ben non.
Moi, j'ai toujours été impressionné par certaines voix. Et Richard, en dehors de ses qualités de compositeur, pour moi, c'est une voix complètement exceptionnelle parce que quand il attaque la chanson, il a un ambitus. Hein, les 3 octaves, elles sont pas loin. Hein. Donc, quand il commence, on dit il va pas passer au-dessus. Et puis si, ça passe avec un vibrato magnifique et c'est splendide.
Sera scivolò su di noi all'uscita della scuola in città, ci prendemmo per mano e ti dissi io ti amo. Quando un bambino ci tagliò poi la via con un tamburo di latte e una scia, e poi quel suono rimbalzò su di noi io ti amo. Il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio imbiancò tutto quel chiasso al centro della città e le nostre parole gelò, io ti amo. Il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. Uscì dai teatri di fumo fumo e rose coprì i nostri passi, che contammo di baci mai dati. Io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, il mio rifugio sei tu. E quando l'incanto parla ancora di te, da inquadro l'alba da ciò che non c'è, penso ancora di te che ti amo, tanto lontana non so se sarai, tanto vicina ascoltarmi potrai, come me nessuno dirti saprà, io ti amo.
Quel bon choix, merci Gilles Dreux, parce que quelle voix, ouais, surtout. On ne sait pas si c'est la technique ou le naturel qui l'emporte dans cette façon de, voilà, d'avoir une voix si dense. Hein.
Ah oui, c'était une présence extraordinaire. Ouais. Et je connais très, très, très peu, j'ai rencontré qu'une seule fois dans ma vie Richard Cocciante. Je lui ai dit toute l'admiration que j'avais pour lui. Je n'ai pas eu l'air de l'impressionner plus que
ça. En tout cas, donc, vous nous le disiez tout à l'heure, très, très simplement et spontanément, vos succès, ça a duré surtout quelques années, donc à la fin des années 60, au début des années 70. Et puis après, les choses ont été plus difficiles, mais vous avez continué, je dirais, d'enchaîner les aventures entre quelques passages au cinéma, mais aussi à la télévision. Vous êtes devenu animateur de Jamais Dreux sans 3.
Oui, à l'époque où Télé Monte Carlo diffusait sur la principauté, Nice, le Var, et puis une partie de la Lombardie. Ah. Voilà, c'était peut-être sur ce qui s'appelait les Basses Alpes à l'époque.
Ah, il ne faut plus dire bas.
Les Alpes de Haute-Provence.
En tout cas, c'était un souvenir amusant, la télévision. Vous avez aimé ça?
Ah ben, c'est-à-dire que j'ai eu la chance à ce moment-là de faire ce métier où on s'enrichit considérablement, parce que j'ai eu l'occasion, par exemple, d'interviewer le président Edgar Faure. Et puis le lendemain, j'avais Raymond Poulidor.
Johnny Hallyday.
Johnny Hallyday, José Luis de Villalonga.
Très éclectique.
Ah oui.
Mais vous avez continué également, évidemment, les tournées, parce que quand on a eu des grands succès, évidemment, on tourne notamment dans le monde francophone. Vous avez chanté un peu partout, hein, au cours de ces années-là également.
Énormément au Québec. Ça, j'ai fait 7 tournées au Québec qui ont vraiment très, très bien marché. En Afrique francophone, énormément. Et puis la francophonie, parce qu'en dehors de ça, j'ai un tout petit peu tourné en Italie avec mon italien. Pas trop mauvais, je ne parle pas bien, mais mon accent est bon.
Alors, j'avais envie d'écouter encore une chanson de cette époque, Gilles Dreux, parce que je la trouve très très réussie. Et en plus, c'est l'occasion de saluer quelqu'un que j'aime bien aussi, qui est déjà venu dans l'émission et qui reviendra, j'espère, c'est Nicole Croisy. C'est un titre qui s'appelle « Moïse ». Racontez-nous un peu avec Jacques Dangean, chef d'orchestre.
C'est un truc d'amitié. À l'époque, nous étions dans une petite production qui s'appelait La Compagnie, financée par Hugo Frey en réalité. Il y avait France Gall, qui n'était pas encore avec Michel Berger à cette époque-là. Il y avait Nicole, il y avait moi, et puis Hugo Frey, et puis c'est tout. C'est une toute petite production. Il y avait un garçon qui avait beaucoup de talent, qui nous a quittés il y a quelques années, qui s'appelait José Bartel, qui a fait partie des voix qu'utilisait beaucoup Michel Legrand dans les parapluies de Cherbourg, etc.
Et Jacques Dangean.
Et Jacques Dangean, qui était l'arrangeur, et qui a été un ami très cher. On a été très, très, très amis à une époque. Nous avions même acheté un bateau ensemble.
Ah oui, effectivement. Alors on va vous retrouver justement donc avec Nicole Croisy, Moïse de 1970.
Bâton à la main.
Et moi, j'ai préparé quelques pains sans le vin.
La Pâque va venir, soyons prêts à partir.
Bonjour, vite l'agneau.
Oh,
la mer rouge, il faut que tu nous conduises, Moïse. L'armée du pharaon s'est noyé ce matin.
Et moi, j'ai lu si pauvre des soldats égyptiens.
De leurs chevaux, Marie, plus un seul n'est en vie.
Belle chanson, hein, Gilles Dreux. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez à la réécouter, mais...
Oui. Elle tient le coup avec le temps. Même les arrangements qui sont datés, mais parce que les sons de grosses caisses, etc., sont très, très, très datés aujourd'hui. Mais une belle chanson
voilà,
reste une belle
donc,
chanson.
Oui, en 1970. Alors, les années donc ont passé, Gilles Dreux, et puis finalement, vous avez quand même à un moment vraiment quasiment quitté le monde de la chanson. Vous avez notamment monté... je crois, à Vichy, un centre de remise en forme.
Mais oui, j'ai joué mes deux possibilités.
Vos deux vocations
de métier,
initiales.
C'est-à-dire que, mes deux vocations, c'est-à-dire que, bon, prof de gym, d'un côté que je n'avais jamais réellement exercé, et puis un carnet d'adresses qui était assez fourni. Donc,
ah oui, c'était un centre chic pour les gens du showbiz.
J'ai eu beaucoup de copains. C'est d'ailleurs à cause de... grâce ou à cause d'eux, que je suis un peu revenu dans le métier à une époque. Simplement, le problème, c'est que j'avais pas fait attention que le reste du métier m'avait pas attendu à ce moment-là. Donc, ça a été très difficile de revenir un tout petit peu.
Enfin, vous êtes un professeur donc de remise en forme, de bonne santé. Vous avez toute une théorie, une pratique de ce qui nous permet de vivre heureux et bien dans notre peau.
Oui, j'avais même écrit un bouquin à l'époque qui s'appelait La forme facile, qui a été édité chez Jean-Claude Lattès, qui a eu un certain succès. Je ne sais pas si c'était le fait que j'étais encore un chanteur dans le souvenir des gens, parce que, vous savez, la médiatisation est quelque chose de bizarre. Je pense que le plus compétent des kinésithérapeutes ou des profs de gym qui auraient écrit le même bouquin n'aurait eu aucun succès. Moi, chanteur un petit peu sur la marge déjà, racontant mes souvenirs de chanteur, les gens n'en avaient pas grand-chose à faire. Mais... chanteur reconverti dans autre chose, ça intéresse les gens. Ça avait intéressé en tout cas les médias.
Voilà, donc ça a été votre excellente occupation des années 80. Dans les années 90, vous avez quand même refait quelques disques, hein, Terre de Lumière, Les Chansons de mes 20 ans, un retour sur votre répertoire, etc.
Oui, bah Les Chansons de mes 20 ans, c'est une petite production qui m'a donné l'occasion de rendre hommage aux gens qui m'avaient passionné quand j'avais 16, 18, 20 ans. J'ai rendu hommage à Eddie Constantine, à Philippe Clay, à Mouloudji.
Et puis finalement, donc vous l'avez déjà évoqué, je crois, tout à l'heure, H. Tendre et Tête de Bois.
Cette expérience, au départ, personne à part le producteur et quelques copains y croyaient. Moi, j'y ai cru dès le départ pour une très simple raison, c'est que j'avais absolument rien d'autre à faire à ce moment-là et que j'avais quand même besoin d'argent. On a été au départ avec le producteur Michel Alguet, qui savait, lui, où il voulait aller. On a été quatre au départ, ils sont tous morts, les autres. Franck Alamo, Richard Anthony et François Degas.
Et vous,
et voilà. Moi. On a été au départ avec le régisseur général de la tournée, qui est décédé lui aussi. Qui s'appelle
ça a été
Patrick
un succès
Carré.
Énorme. Et
ça a été un succès énorme, c'est-à-dire que on est parti, on savait pas. Michel Alguet nous avait fait un contrat pour 4 dates, ou un truc comme ça, où il était même pas sûr de pouvoir nous payer. Et on a eu la couturière, quoi, l'équivalent de la couturière, où on n'avait jamais répété ensemble, on n'avait jamais filé le spectacle. Ça s'est passé le 21 mars, c'était le jour du printemps, 21 mars 2006, à l'ancien Zénith de Montpellier. Et là, miracle, à 3h de l'après-midi, le Zénith était presque plein, presque comble. Il y avait, je sais pas, 3
Vous aviez 70 ans passés, quand même. Hein.
J'avais 71 ans, pas tout à fait 72, plutôt plus près de 72. Et j'étais pas le doyen, parce que François de Galt était plus vieux que moi, les Machu Cambos étaient plus vieux que moi, Lenny Escudero était plus
public,
vieux que moi.
Et le public de la même génération.
Le public de la même génération, complètement. Et ça a duré 10 ans.
Et c'était une belle façon en tout cas de faire redécouvrir aussi des chanteurs de votre génération. Alors on va écouter peut-être avant de se quitter maintenant bientôt malheureusement une des chansons que vous aviez envie de réentendre, mais peut-être faut que vous nous la mettiez un petit peu dans son contexte d'abord. Ça s'appelle Dieu pardonne-moi pas.
Ah, j'ai eu une période où j'étais fou de
oui,
Western Spaghetti.
Ah oui, c'est le côté
Cocciante. Voilà, c'est le côté Cocciante. Oui. J'avais à l'époque des grandes discussions avec Eddie Mitchell, qui était un tenant du Western pur et dur classique,
oui,
John
ouais.
Wayne, Robert Mitchum, etc. Et moi, qui trouvais que ça se prenait trop au sérieux, John Ford, voilà. J'aimais Sergio Leone, que j'ai eu l'occasion après de rencontrer Sergio Leone. Ça a été un plaisir pour moi, simplement, de lui dire mon admiration. Et à l'époque, avec Boris Bergman, on avait composé cette parodie de Western Spaghetti. Voilà. Dieu pardonne-moi pas.
Venait de la ville avec ses beaux habits. Ma femme était docile et il lui a suffi de parler de la ville pour l'amener à lui. Toi qui as pris ma femme et mes économies, j'ai dû vendre mon âme et la vendre un bon prix pour m'acheter cette femme qui te prendra la vie. Je n'aurai de repos. Ma femme, qu'as-tu trouvé là-bas? Si la ville a ses charmes, tu as besoin chez toi. Par tous ceux qui me donnent, on se retrouvera. Je n'aurai de repos. Thank you.
venir te chercher. Je n'ai pour tout bagage qu'une arme à mon côté. Au bout de ce village, je sais que vous dormez. Je n'aurai
Dieu pardonne-moi pas sur les paroles de Boris Bergman. Et c'est donc toujours Gilles Dreux qui est mon invité ce matin avec à nouveau le chef d'orchestre de votre grand succès Alouette, Jean Morlier, je crois, dans cette chanson.
Oui, et je précise que Ennio Morricone nous a pas fait
voilà,
de procès.
C'est bien. C'est... cette parodie, effectivement, on a toutes les sonorités, on a reconnu, oui, à la Morricone.
Ah oui, on y est à fond. Voilà, on avait
voilà, en tout cas, bah écoutez, ce qui fait plaisir, Gilles Dreux, c'est que aujourd'hui, à 86 ans, hein, en Ardèche où vous vivez, je crois, bah vous donnez l'impression d'être un homme serein, heureux, qui sait vivre, et vous avez vraiment pris vos racines dans cette région depuis longtemps.
Et j'y suis depuis maintenant 4 ans et demi. Nous y sommes parce que j'ai vécu avec ma douce une vie pleine et heureuse. Et ça s'entend parce que c'est dur d'être équilibré en ce moment avec tout ce qui se passe. Et des 10 années précédentes, on avait déjà quitté Paris et on habitait dans le Gard, mais dans le village le plus haut du Gard,
le
qui
Haut-Gard.
Touchait l'Ardèche. Voilà. Le Haut-Gard, oui. Le Haut-Gard, un village qui s'appelait Gagnères. Finalement, on est monté de 60 km pour vivre en Ardèche.
Voilà, et vous faites bien, puisque c'est là que même les musiciens du groupe Lily Cry sont venus vous voir pour enregistrer ce dernier disque, hein, Le Comptoir des Amis, qui est sorti l'année dernière, on peut dire en plein confinement.
Ah oui, ce disque, on a connu, pendant les enregistrements, on a connu les gilets jaunes, on a connu les grèves des retraites, on a tout eu. Et alors, il a été mis sur le marché le 30 octobre 2020,
du reconfinement,
le jour même où le deuxième confinement commence.
On le trouve, en tout cas c'est distribué par Universal, et c'est plein de vos amis, dont d'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure, hein, Didier Barbelivien, avec qui vous aviez fait tout un disque il y a aussi quelques années, qui est également un proche.
Hein. Ah oui, j'aime beaucoup Didier. Je l'ai connu, il avait 19 ans, hein, il arrivait, c'était un petit génie. Il foisonnait d'idées, et j'ai été sans doute un des premiers chanteurs à lui prendre des textes.
C'est donc une de ces longues histoires d'amitié qui vous caractérise, ça fait vraiment plaisir.
Ah oui.
Et puis vous méditez sur la condition humaine en lisant et en relisant Don Quichotte, si j'ai bien compris.
Oui, exactement. Il y a plusieurs paliers. Il y a le Don Quichotte et puis il y a l'homme de la Manche derrière, c'est-à-dire il y a le Don Quichotte et la vision de Don Quichotte qui est importante. Oui, mais c'est Don Quichotte, c'est moi quelque part.
Vous auriez pu jouer l'homme de la Mancha alors. Vous aviez la voix.
J'aurais bien aimé, je ne sais pas si j'en aurais été capable, mais j'aurais aimé. Parce que Brel fait quand même partie de mon paradis
et
à
on
moi.
On a compris presque par hasard, c'est grâce à lui que vous avez commencé dans la chanson.
Exactement, c'est à cause
mais de... Mais la musique étant tellement diverse dans ses ressources, on va se quitter, puisque c'est à l'origine un petit peu cette émission, l'émission de l'opérette, on va se quitter avec La Belle Hélène d'Offenbach. Je crois que ça ne vous déplaît pas comme idée, Gilles Dreux.
Ça a été une de mes grandes émotions de jeune homme, en sortant justement de César Franck, de Bach, et toute cette musique à la fois légère et en même temps amusante. À une époque très ancienne, on allait répéter, avant un événement, l'Olympia ou un truc comme ça, on allait répéter au Club Méditerranée, qui nous offrait le séjour, et moyennant quoi, on animait les soirées du club avec les musiciens. Et avec des géos, j'avais monté des extraits de La Belle Hélène, où je m'étais attribué le rôle d'Agamemnon, évidemment.
Le roi des rois.
Le roi des rois. Et l'anecdote est qu'avant la représentation, on avait pas mal arrosé et taquiné sérieusement. Et je m'étais gouré dans les paroles le roi barbu qui s'avance. Et quand on, à la reprise finale où je reviens, j'entends les chœurs derrière qui font le roi bourré qui s'avance, ré qui s'avance, ré qui s'avance. Le roi bourré qui s'avance. Voilà, c'est.
Eh ben, on va donc se quitter avec cette marche des rois de la Belle Hélène. Mais c'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin, Gilles Dreux, sur France Musique pour évoquer, voilà.
C'est un plaisir pour moi, véritablement.
Et merci donc d'avoir été avec nous et à bientôt.
Merci à vous.
Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax.
Et talent, avec jactance, avec jactance, leur double thorax.
Parmi le fracas immense des cuivres de Saxe, ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax, les deux Ajax.
Ces rois remplis de vaillance, plis de vaillance, c'est les deux Ajax.
Je suis le bouillant Achille, bouillant Achille, bouillant Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, grâce à mon plongeon.
Grâce au plongeon.
J'aurais l'esprit bien tranquille, n'était mon talent. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon, le Myrmidon.
Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon.
Je suis... Mais qu'est-ce que je suis?
L'époux.
Comment?
L'époux.
L'époux? Ah oui, l'époux, oui, je suis l'époux de la reine Pou, de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, je le dis tout bas, ne me fasse
quoi donc
de la peine, n'anticipons pas. Je suis l'époux de la reine Pou, de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas.
Il est l'époux de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas. Il est l'époux de la reine Pou, de la reine, le roi Ménélas.
Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon.
Agamemnon.
Et ce nom seul me dispense, d'en dire plus long. J'en ai dit assez, je pense, en disant mon nom. Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon.
Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi barbu qui s'avance, c'est Agamemnon. Agamemnon.
La marche des rois de la Belle Hélène d'Offenbach sous la baguette de Jules Gressier, une musique qui enchante mon invité Gilles Dreux ce matin, que je recevais notamment pour la parution de son nouveau CD, Le Comptoir des Amis.
Véronique, Véronique, oh Véronique, toi t'as elle, l'amour, l'amour, ça va toujours. Quand le printemps vient en chantant, le guire plein des longs baisers, dans les amants. Pas besoin de disco, quand le printemps raconte, l'amour, l'amour, ça va toujours. Véronique, un matin, sentit dans son cœur soudain, chose, sa cause. C'était un doux frisson, l'amour comme une chanson, montée des buissons. L'amour, l'amour, ça va toujours. Y'a papa, y'a papa, y'a papa, papa.
patin est là et tout le monde qui chante tralala. L'amour, ça va toujours.
L'amour, ça va toujours. Quand le printemps vient en chantant,
le gué, le pain et vos baisers, dans les amants vont se grésir.
Véronique, le printemps est là. Enfin, il est presque là. Et il l'est encore plus avec la voix lumineuse des comédiennes harmonistes.
Étonnez-moi, Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis, vous le savez, on commémore cette année la Commune de Paris. On en parle beaucoup. Et je voulais vous faire entendre une chanson qu'on fredonnait, qu'on chantait beaucoup, justement, pendant la Commune. Ça s'appelle Le Sire de Fichtoncamp. Fichtoncamp, c'était le surnom qu'on donnait à Napoléon III, qui venait donc d'être démis et de s'exiler peu avant. Fichtoncamp, on l'appelait aussi Badinguet. Et vous retrouverez ces deux noms en particulier dans cette version du Sire de Fichtoncamp de Paul Burani, merveilleusement chantée par Francesca Solville.
Il avait une moustache énorme, un grand sabre et des croix partout,
partout, partout.
Mais tout ça, c'était pour la forme, et ça ne servait à rien du tout,
rien du tout.
C'était un fameux capitaine qui tenait avant tout à sa peau,
à sa peau.
Un jour, il voit que son sabre le gêne, aux ennemis, il en fait cadeau.
Quel beau cadeau!
Là, le sire de Fichtoncamp qui s'en va sans guerre, dans deux temps et trois mouvements, sans devant derrière. Là, le sire de Fichtoncamp qui s'en va sans guerre, en deux temps et trois mouvements, Badingue, Fichtoncamp. Père la mère Badingue, à dessous tout paquet, Père la mère Badingue et le petit Badingue. Comme diplomate, c'était un maître, il en remontrait au plus malin,
au plus malin.
Mais il ne le faisait point paraître pour pas humilier ses voisins,
ses voisins.
La politique, c'est une roulette. Rouler, on ne sort jamais de là,
jamais de là.
Mais lui roulait sa cigarette, puisqu'il ne pouvait rouler que ça,
rouler que ça.
V'là le sire de Fichtoncamp qui s'en va en guerre, en deux temps et trois mouvements, sans devant derrière. V'là le sire de Fichtoncamp qui s'en va en guerre, en deux temps et trois mouvements, Badingue, Fichtoncamp. Père la mère Badingue, à dessous tout le paquet, Père la mère Badingue et le petit Badingue. Il était d'une force incroyable, il inventa plus de 100 canons,
100 canons.
Mais le bruit lui faisait une peur du diable, puis ça troublait ses digestions,
digestions.
Un jour pourtant, jour héroïque, il vit un pétard éclater,
éclater.
Mais il en eut une telle colique que tout le monde en fut ennuyé, fut
ennuyé.
V'là le sire de Fichtoncamp qui s'en va sans guerre, dans deux temps et trois mouvements, sans devant derrière. V'là le sire de Fichtoncamp qui s'en va sans guerre, dans deux temps et trois mouvements, Badingue, Fichtoncamp. Père la mère Badingue, à dessous tout paquet, Père la mère Badingue et le petit Badingue. Enfin, pour finir la légende de ce monsieur qu'on croyait César,
croyait César.
Sous ce grand homme de contrebande, v'là qu'on ne trouve plus qu'un mouchard,
qu'un mouchard.
Chez ce bonhomme-là, tout était louche, et la morale de ce bon vivant,
bon vivant,
c'est qu'étant porté sur sa bouche, il devait finir par ses dents,
par ses dents.
Là, le sire de Fichtoncamp s'en va sans guerre, en deux temps et trois mouvements, sans devant derrière. Là, le sire de Fichtoncamp s'en va sans guerre, en deux temps et trois mouvements, Badingue, Fichtoncamp. Père la mère Badingue, à dessous tout paquet, Père la mère Badingue et le petit Badingue.
Un extrait du disque La Commune en chantant, enregistré par notre amie Francesca Solville avec Mouloudji. Et donc cette chanson, voilà, qui se moque beaucoup de Napoléon III. Allons, soyons indulgents, il y avait quand même des bons côtés dans le Second Empire, à commencer par Offenbach qu'on entendait juste avant. En tout cas, voilà, on va se quitter comme chaque semaine avec Fernandel. J'ai choisi pour vous aujourd'hui Le Papa de Pépa, une chanson de 1942.
C'était une danseuse à la peau fine, une gamine nommée Pépa. Elle avait 18 ans, la voix câline, et ça se devine, elle m'emballa. Dès que je la connus, elle me présenta un hidalgo à grand chapeau qui la quittait pas. C'était le papa de Pépa, un grand gaillard de la pampa. Du premier jour, il s'agrippa et ne nous lâcha pas d'un pas, surtout aux heures des repas. Naturellement, il ne payait pas, et comme il ne se gênait pas, c'est inouï ce qu'il lampa, c'est effrayant ce qu'il pompa. Et pourtant, je ne pouvais pas refuser ça, n'est-ce pas? Au papa, au petit papa, au papa de Pépa, parabapapa, 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 de Pépa. Afin d'éblouir ma brune conquête, je file en blette de faux diamants. Mais malgré ses folies, ma toute belle restait rebelle, cruellement. Elle me disait non, 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 taisez-vous. Et la raison de tous ces noms qui me rendaient fou, c'était le papa de Pépa, le grand gaillard de la pampa. C'était lui qui ne voulait pas me laisser seul avec Pépa. Et pourtant je ne le privais pas. De 10 kilos, il se retapa, son complet n'y résista pas. Alors ce fut moi qui le tapa, et comme un prince il se nie pas. Et pourtant je ne pouvais pas refuser ça, n'est-ce pas? Au papa, au petit papa, au papa de Pépa. De Pépa. Un jour quelqu'un vint me dire à l'oreille, moi je vous conseille, déviez Pépa. Mais me sentant déjà mal à la tête, vers sa chambrette, je fus à grands pas. Dans les bras de Pépa, je vis à demi-nu un hidalgo que sans chapeau j'avais pas reconnu. Oh, vous ne savez pas qui c'était? C'était le papa de Pépa, le grand gaillard de la pampa. Et comme il palpait ses abats, je compris soudain qu'il n'était pas vraiment le papa de Pépa. En me voyant, il n'insista pas. Ah, je vous jure, ça la lui coupa. Et en caleçon, il décampa, tandis que Pépa ne pipait pas. Mais une fois, si l'on m'attrapa, on ne m'y reprendra pas. Au papa, au cou du papa de Pépa.
Fernandel dans Le Papa de Pépa, c'était en 1942 avec l'orchestre de Pierre Chagnon. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Xavier Hatto, réalisation Christine Amado. On se retrouve bien sûr samedi prochain et je recevrai le compositeur Vladimir Kosma. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.